Naomi Klein n'est pas une spécialiste du numérique, mais elle a un talent incroyable qui fait mon admiration depuis 25 ans, et pas seulement la mienne d'ailleurs. Elle décrit, toujours un peu avant les autres, la direction qu'est en train de prendre le monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est apparue dans le débat public. En 1999, pendant que le mouvement altermondialiste se fait connaître en empêchant une réunion de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, aux États-Unis, elle publie No Logo, un livre où elle ne raconte pas seulement la puissance nouvelle des marques, mais toute une évolution de l'économie mondiale qu'on peine encore à décrire. Elle a alors 27 ans, elle est journaliste au Canada, et non seulement son livre se vend à des millions d'exemplaires, mais il devient la bible de l'altermondialisme et il fait d'elle une figure de proue de la gauche radicale. Et depuis, c'est toujours la même chose. Elle est un peu en avance. En 2008, alors que la crise des subprimes commence aux États-Unis, elle publie La stratégie du chaos, qui explique comment le capitalisme profite des crises que parfois il crée pour s'imposer plus fortement. Et ainsi de suite, jusqu'en 2019, quand elle publie Plan B pour la planète, dans lequel elle expose le Green New Deal, qui va devenir le cœur du programme de Bernie Sanders, le vieux socialiste pour la primaire démocrate américaine. Alors, on peut ne pas être d'accord avec elle politiquement, mais c'est difficile de nier et sa vista et sa puissance d'analyse. Ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit, après 25 ans de livres, d'enquêtes, d'interventions publiques dans tous les pays du monde, une voix très écoutée et bien au-delà de son camp politique. Mais Naomi Klein n'est pas une spécialiste du numérique. Alors, pourquoi j'ai envie d'en parler avec elle ?
Le code a changé.
D'abord parce qu'il n'y a pas que les spécialistes du domaine qui ont quelque chose à en dire, ça j'en suis convaincu. Mais il y a une autre raison, plus conjoncturelle. Son dernier livre nous y plonge dans le numérique, presque accidentellement. Ce livre est sorti à l'automne 2023, il est intitulé « Le double, voyage dans le monde miroir » et son point de départ, le voici. Naomi Klein a un double. Une femme avec laquelle on la confond parce qu'elles sont connues toutes les deux, parce qu'elles portent le même prénom, l'autre s'appelle Naomi Wolf, parce qu'elles ont à peu près le même âge et quelque chose de commun dans l'apparence. On les confond tellement qu'il arrive souvent qu'on attribue les textes de l'une à l'autre et les positions politiques de l'une à l'autre. Alors, au début, c'était pas très grave. Naomi Wolf s'est fait connaître dans les années 90 pour un livre féministe qui a été un immense succès, « Quand la beauté fait mal ». C'était une démocrate convaincue, jusqu'à devenir d'ailleurs conseillère du vice-président Al Gore. Moins radicale que Naomi Klein, donc. Mais bon, ça passait. Sauf qu'aujourd'hui, Naomi Wolf est une anti-vax convaincue et notoire, parfaitement conspirationniste, invitée régulièrement du podcast de Steve Bannon. Naomi Wolf est devenue une figure très importante de ce paysage étrange et confus de l'extrême droite américaine. Alors, on pourrait se dire, c'est triste, mais au moins, ça a mis fin à la confusion avec Naomi Klein. Eh ben non. Au contraire, la confusion n'a fait qu'augmenter. Des gens se sont mis à faire une lecture complotiste de la stratégie du chaos de Naomi Klein, à confondre son anticapitalisme argumenté avec la fausse défense du peuple de Naomi Wolf et du trumpisme en général, au point qu'un jour, Naomi Klein s'est dit qu'il fallait qu'elle affronte cette figure du double. Il lui fallait comprendre non seulement la divergence de trajectoire qui aurait pu converger, mais aussi examiner ce qui, en elle, pouvait créer la confusion avec une anti-vax complotiste. C'est le point de départ de ce livre qui, à partir de la figure du double, essaie de penser ce qui s'est passé pendant le Covid, pourquoi autant de gens ont vrillé, pourquoi l'alt-right en a profité et pas la gauche, et plein d'autres choses encore. Bref, Naomi Klein regarde son reflet dans le miroir que lui tend Naomi Wolf, et plus intéressant encore. Elle nous emmène avec elle derrière le miroir, dans ce monde qui est celui du trumpisme, mais aussi d'autres mouvements politiques qui sont plus proches de nous. Ok, tout ça c'est passionnant. Mais où est le numérique là-dedans ? Eh ben, à plein d'endroits justement. Parce que tout ça se produit dans un écosystème où on croise les réseaux sociaux, les podcasts, l'angoisse de la surveillance par nos outils, l'intelligence artificielle, les troubles dans la réalité, etc. Alors, j'ai demandé à Naomi Klein un exercice pas facile. Rassembler toutes ses réflexions éparses dans une seule discussion. Elle a accepté. Et on s'est retrouvés dans un très joli hôtel du centre de Paris où elle n'était pas venue depuis des années. Et on a d'abord discuté de tout et de rien pendant qu'elle se faisait un thé. Et on a fini par signer. Ma première question n'en était pas vraiment une. Je lui ai dit, mais en fait, sans Internet. Les gens ne vous auraient sans doute pas confondu avec Naomi Wolf. Et c'était parti.
Je ne pense pas qu'ils m'auraient autant confondu avec Naomi Wolf. Mais, et c'est aussi important, je ne l'aurais pas su. C'est tout le problème d'Internet. La première fois que je suis allée sur Twitter et que j'ai cliqué sur la cloche pour voir mes mentions, j'ai été inondée par tous ces gens qui parlaient de moi. Dans un sens, ça m'a rappelé les graffitis dans les toilettes du lycée. J'ai eu l'impression que c'était des choses que je n'étais pas censée lire, des conversations privées, pas publiques. Rien à voir avec une critique de livre. C'est juste écouter des gens que vous ne connaissez pas parler de vous. Et puis je me suis dit, oh non, il ne faut surtout pas que je me lance là-dedans. Rien de bon ne va en sortir. Mais je n'ai pas pu arrêter. C'est trop addictif. Donc, pour le dire simplement, Internet nous donne la possibilité de connaître les petites erreurs que font les autres à notre sujet. Imaginez deux amis qui prennent un café et se trompent complètement sur le sens d'un article que vous avez écrit. Il n'y a aucune raison pour que vous le sachiez ni que ça vous soucie. Mais quand ça se passe dans les réseaux, vous assistez au spectacle. Vous pouvez prendre part à la conversation. Il y a donc ça. Je suis sûre que des gens m'ont confondu avec Naomi Wolf avant Internet, mais ni l'une ni l'autre, on ne le savait.
Ok, sans Internet, Naomi Klein n'aurait peut-être pas su qu'on la confondait avec Naomi Wolf. Et on ne peut qu'être d'accord avec son analyse. Oui, Internet a rendu flou les frontières entre paroles privées et paroles publiques. Oui, Internet inscrit et diffuse des erreurs qui auraient sans doute été sans conséquence si elles étaient restées dans des conversations. Oui, Internet peut être un point de passage d'un monde à l'autre. Il peut être le miroir. D'accord. Néanmoins, ça n'explique pas pourquoi les gens se sont mis à confondre deux femmes aux trajectoires si divergentes. Et quand je lui pose la question, Naomi Klein avance une notion qui s'est révélée pas inintéressante.
C'est ce que j'appelle la lecture Internet, qui diffère de ce qui est pour moi la lecture pré-Internet. Par lecture Internet, je n'entends pas seulement la lecture sur l'écran, mais la lecture dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, qui se fait dans le but de commenter. C'est une lecture beaucoup plus rapide qu'on fait sans se plonger dans le texte, qu'il soit long ou court. Or, c'est ce qui est beau dans la lecture, c'est un véritable don de l'attention, un altruisme, un oubli de soi. Quand on dit qu'on est pris par un livre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est perdu nous-mêmes, qu'on est dans l'histoire et qu'on s'est décentré, comme l'écrit Iris Murdoch. C'est un moment de transcendance qu'on retrouve dans d'autres expériences. Écouter de la musique, contempler la beauté de la nature. Dans les réseaux sociaux, on se demande constamment qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Et qu'est-ce que je peux dire très vite avant que quelqu'un d'autre ne le dise? Comme ça, j'aurai les clics. C'est donc une forme très active d'engagement de soi dans la lecture. Et cette lecture qui se fait trop vite, sous la pression, je pense qu'elle mène en elle-même à la confusion. En l'occurrence, je crois que les gens lisaient trop vite. Ils voyaient un article avec son nom dans le titre, Naomi Wolf dit blablabla, et ils se disaient, mais c'est incroyable que Naomi Klein ait dit ça. Et pourtant, le nom est écrit en énorme. Comment ont-ils pu rater cette information?
J'avoue que dans un premier temps, j'ai pas été très convaincu par l'analyse de Naomi. Son opposition entre lecture pré-internet et lecture internet avec d'un côté l'oubli de soi et la transcendance et de l'autre la précipitation, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais après, j'ai bien écouté ce qu'elle dit et j'ai reconsidéré mon jugement. Naomi ne parle pas de la lecture sur écran en général, mais de la lecture dans les réseaux sociaux. Et je trouve intéressant de les distinguer selon le critère de l'activité. C'est tout à fait vrai que la lecture dans les réseaux sociaux invite à la réaction. commenter, liker, partager. La plupart des fonctionnalités nous invitent à la réaction parce que l'économie elle-même de ces réseaux repose là-dessus. C'est à la fois leur vertu merveilleuse de permettre l'activité et leur terrible vice d'en avoir besoin. Ce à quoi je n'avais pas réfléchi, c'est au fait que lire dans l'idée de réagir pouvait être une autre forme de lecture. Et là, tout à coup, une analogie m'est venue. Les gens qui, quand on discute avec eux dans la vraie vie, hein, et qu'on commence à dire un truc, ouvrent déjà leur bouche pour répondre. Les gens qui ne laissent jamais terminer une phrase, qui n'écoutent que pour dire quelque chose. Moi, ça me rend dingue. Et tout à coup, avec ce que dit Naomi, les réseaux sociaux me sont apparus comme ça. Comme un espace où tout le monde écoute juste pour dire un truc. Pas forcément un truc argumenté, hein. Parfois c'est juste un like. Et je suis toujours fasciné par la vitesse avec laquelle les gens likent sur Insta par exemple. À peine la photo ouverte ou la story commencée, et bim, un like. Alors, moi la question que je me pose c'est, une fois qu'on a liké, une fois qu'on a partagé, est-ce qu'on lit encore? Est-ce qu'on regarde encore? Bon, en soi, c'est pas très grave. Mais Naomi y voit une cause de confusion, ce qui serait plus embêtant. Pourquoi pas? Ça peut être une explication du fait qu'on se soit mis à l'apprendre pour Naomi Wolf, et réciproquement. Néanmoins, je lui demande s'il n'y a pas quand même des raisons un peu plus techniques. Et là, elle me raconte une histoire rigolote.
Une fois où quelqu'un m'a confondu avec elle, mon premier réflexe a été d'écrire quelque chose de très désagréable. Puis je me suis dit, bon, il lit trop vite. Et donc je lui ai écrit, vous êtes sûr de ce que vous dites ? Après avoir cliqué sur le lien, la personne a reconnu s'être trompée. « Oh, je suis vraiment désolée, c'est cette foutue autocorrection. » Autrement dit, quand il a commencé à écrire Naomi, l'algorithme a automatiquement complété par mon nom. Là, j'ai compris que ces algorithmes sont débiles, ils fonctionnent par association. Et donc, plus j'interviens pour dire « non, ce n'est pas moi », plus nos noms sont associés, et la confusion augmente. Si vous cherchez mon nom, vous tombez sur ces livres. Le numérique a fait de nous des doubles. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis d'abord sentie piégée, parce que personne ne peut battre l'algorithme. Et puis après, je me suis dit, mais c'est trop drôle, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse un livre, comme une forme de reprise de contrôle, pour raconter mon histoire.
C'est intéressant ça. Écrire pour se réapproprier une identité que le numérique a confondue avec une autre. C'est drôle. Ça me rappelle une histoire que j'ai déjà racontée, je crois, mais c'est pas grave. En 2012, le grand écrivain américain Philip Roth, auteur notamment de La Pastorale américaine, publie dans le New Yorker une longue lettre dans laquelle il s'adresse à Wikipédia. Il explique qu'ayant constaté des erreurs d'interprétation sur un de ses livres, La Tâche en l'occurrence, il a essayé d'intervenir sur sa fiche, mais on l'en a empêché au prétexte que, selon les règles de l'encyclopédie, on avait besoin de sources secondaires. Et Roth relevait le fait un peu absurde de ne pas considérer l'auteur comme ayant autorité sur l'interprétation de son propre texte, au risque de laisser exister une sorte de reflet numérique dans lequel il ne reconnaîtrait pas son œuvre. Cette histoire, elle pourrait sembler anecdotique si elle n'entrait pas en résonance à deux niveaux avec celle de Naomi Klein. Premier niveau, dans son livre Le Double, hein, Naomi Klein cite beaucoup, beaucoup Philip Roth, parce qu'il est lui-même un écrivain du double. Souvent, ses personnages sont multiples, soumis à des identités doubles, cachées, contradictoires. Bon, ça, c'est un rapport explicite entre les deux textes. Mais il y a une autre résonance, à mon sens, plus profonde. Un mois après sa lettre dans le New Yorker, Philip Roth a annoncé qu'il arrêtait d'écrire. Bon, il avait 80 ans et une œuvre immense. Enfin, c'est quand même rare, les écrivains qui annoncent arrêter d'écrire. Et moi, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait une relation entre cette lettre à Wikipédia et cette décision d'arrêter d'écrire. Comment encore être auteur si on vous explique que vous n'avez pas autorité sur votre texte ? Auteur et autorité, c'est la même racine latine. J'imagine que pour quelqu'un comme Roth, qui avait un problème avec l'unicité de lettre qui a été complètement contrôle fric sur l'écriture de sa biographie, j'imagine que ça a dû être traumatisant comme expérience de s'apercevoir que sur Internet, il y avait d'autres autorités sur son texte. J'ai du mal à ne pas y voir une raison d'arrêter d'écrire. Alors que l'expérience assez similaire vécue par Naomi Klein, c'est-à-dire des gens qui se mettent à lui prêter des propos qu'elle ne tient pas, à la confondre avec une sorte de double maléfique, eh ben, ça produit chez elle l'effet exactement inverse. Naomi Klein, elle va faire un livre. Voilà, on peut dire qu'en écrivant le double dans lequel elle se réapproprie cette histoire, Naomi Klein réussit à faire ce que Roth n'a pas pu faire. C'est intéressant. Mais bon, quelles leçons on peut en tirer, nous qui ne sommes pas des personnages publics comme Naomi Klein et Philip Roth, enfin, en tout cas pas au point de vivre les expériences qu'ils ont vécues. Eh ben Naomi, elle, elle pense que ça nous concerne tous.
Nous luttons tous avec nos doubles numériques. Est-ce que nous sommes vraiment ce que nous montrons en ligne? Les gens sont-ils vraiment ce qu'ils sont en ligne? Cela crée une gigantesque défiance et une gigantesque confusion, à laquelle s'ajoute aujourd'hui l'IA. Dès qu'on voit quelque chose qui met au défi nos convictions, on peut immédiatement se dire que peut-être que c'est faux. Et donc, elle incite nos cerveaux à ne pas croire, ce qui ne nous aide pas, parce qu'elle construit un mécanisme de défense. Dès que quelque chose met au défi notre conception des choses, on peut dire que c'est l'IA. Mettons que je poste quelque chose sur Gaza. Il y aura des gens pour dire ce ne sont pas de vraies photos, ce ne sont pas de vrais enfants. Ce sont de vrais enfants, mais ils ne sont pas obligés de le croire, de s'y confronter à cause de ce mécanisme de défense.
Deux choses m'intéressent particulièrement dans ce que dit Naomi Klein là. Deux choses qui ont l'air distinctes, mais qui sont reliées par cette notion de confusion. D'abord, l'idée qu'on est tous en lutte avec nos doubles numériques et ceux des autres. Ouais, c'est vrai. Et ça me rappelle d'ailleurs cette histoire qui avait été retentissante hein, quand on avait découvert que Mehdi Meklat, jeune chroniqueur brillant et sympathique, notamment sur France Inter, avait un compte Twitter sous pseudonyme dans lequel il faisait tout ce qu'il ne faisait pas dans la vie. Être insultant, raciste, antisémite, homophobe, etc. Bon, ça a fait toute une histoire. Les uns disaient que ces tweets révélaient ce que Mehdi Meklat pensait vraiment, d'autres que ce n'était que des blagues provocantes et débiles, d'autres encore sont allés ressortir la figure littéraire du double maléfique, bon bref, chacun y est allé de son interprétation, moi compris. Mehdi Meklat a écrit ensuite un livre entier pour à la fois s'excuser et tenter d'expliquer. Mais au fond, ce qu'il ressortait à la fois du livre et de tout le débat, hein, c'est exactement ce que dit Naomi, c'est la confusion. Une confusion à laquelle on peut donner le sens qu'on veut, hein, n'empêche qu'elle est là et qu'elle trouble tout le monde, à commencer en l'occurrence par le premier intéressé. L'autre idée avancée par Naomi, c'est l'IA comme mécanisme de défense. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, bon, que l'IA rende confuse la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, c'est quelque chose qu'on commence à comprendre. Les images fabriquées par une machine qui ressemble à des clichés de photoreporteurs, les deepfakes qui mettent dans la bouche de gens des propos qu'ils n'ont jamais tenus, ouais, ça crée une confusion. Mais Naomi va plus loin avec l'idée qu'on pourrait invoquer la confusion créée par l'IA pour se défendre contre ce qu'on ne veut pas voir. Pour se défendre contre quelque chose qui va contre ce qu'on veut croire. Alors, comme je trouve ça vraiment mais très intéressant, je veux que Naomi m'en dise plus. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de se faire l'avocat du diable. Alors je lui dis, ouais, ok, l'IA crée de la confusion entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Bon, mais est-ce que c'est pas une bonne chose? Après tout, l'invitation au scepticisme, c'est bien. Hein, une bonne partie de la philosophie occidentale s'est construite sur le doute et tout le monde trouvait ça super, non? Et là, pour la première fois depuis qu'on se connaît, Naomi, qui est d'ordinaire d'une amabilité extrême, me fait une réponse limite un peu sèche.
Oui, on devrait plus s'interroger et questionner les faits, mais ce n'est pas ce que je suis en train de décrire. Je parle d'une réorganisation synaptique qui fait qu'on n'a plus à déterminer si c'est vrai ou faux, mais on se contente de dire « ça doit être de l'IA, ça ne peut pas être réel, c'est faux ». C'est la version technologique de l'usage que fait Trump des fake news. Quand il dit aux gens « ce sont des fake news, ne croyez pas ce que vous lisez dans le New York Times, ne croyez pas ce que vous entendez sur moi, ce sont des fake news ». Ça crée une histoire que les gens peuvent se raconter. Tout ce qu'on dit sur Trump, c'est des fake news, ça vient des ennemis qui veulent l'abattre.
Non, non. CNN's fake news. I don't take questions. I don't take questions from CNN. CNN is fake news. I don't take questions from CNN. John Roberts of Fox. Let's go to a real network. Let's go.
AI adds another layer of it where it actually could be manufactured.
Mais l'IA ajoute un niveau supplémentaire parce que, en effet, ce qu'on voit peut avoir été fabriqué. Ça ne l'est pas nécessairement, mais vous pouvez croire que ça l'est. Plus besoin de croire à quoi que ce soit, sauf quand un lion vous saute à la gorge. L'incrédulité peut porter sur absolument tout.
Ce que Naomi décrit là, ça a déjà un nom. On appelle ça l'incrédulité par défaut. Et ce qui est intéressant dans cette idée, c'est qu'elle identifie un problème qui est assez nouveau. Le problème n'est plus que les gens croient des conneries, mais qu'ils ne croient plus à rien. Ou plutôt qu'ils peuvent invoquer l'incrédulité quand ça les arrange. C'est pour ça que le terme de fake news est génial. C'est un tampon d'incrédulité. On me dit un truc qui m'emmerde, et bim, je réponds fake news. Il n'y a rien d'autre à ajouter. D'ailleurs, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est ça l'usage le plus courant du mot fake news dans le débat public. C'est pour disqualifier un propos qui peut-être est tout à fait vrai. Et c'est certain que l'IA peut augmenter la surface de cette incrédulité, puisque de fait, elle produit aujourd'hui des contenus qui peuvent sembler très réels, et dont même techniquement, il est compliqué de prouver qu'ils ne le sont pas. Mais aussi parce que les dernières recherches montrent que certains modèles d'IA arrivent à bluffer au poker, à tricher à des jeux, et à mentir dans certains cas pour parvenir au but qui leur a été fixé. Donc, ok, l'IA ajoute une couche au problème. Mais je trouve important que Naomi la relie dans son raisonnement aux fake news, qui sont un problème avant tout humain. Parce que quand on y réfléchit, ce sont toutes les instances de certification du réel qui sont en crise, pas simplement les instances techniques. Quand un homme ou une femme politique refuse de croire les chiffres produits par l'INSEE, par exemple, quand les calculs produits par les experts du climat sont balayés d'un revers de main, quand une enquête journalistique sérieuse est disqualifiée parce que partisane, qu'est-ce qu'il reste pour certifier le réel? Alors, la technologie a sa part dans cette histoire, mais elle n'est peut-être pas si centrale que ça. Bon, tout ça, c'est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne en ce moment. Mais ça nous éloigne un peu de notre histoire des deux Naomi. Quoique, si cette histoire de double est aussi embêtante pour Naomi Klein, c'est parce que Naomi Wolf a changé. Au début, c'était discret. Au cours des années 2010, le féminisme de Naomi Wolf s'est teinté d'anti-wokisme. Bon, elle s'est fait dépasser par sa gauche, mais comme beaucoup de féministes de sa génération, au fond, c'était pas encore très grave. D'ailleurs, elle clame partout qu'en 2020, elle a voté Biden. Rien à voir, donc, avec ce qu'elle est devenue par la suite et ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé? Dans l'histoire de Naomi Wolf, il y a un tournant. En 2019, elle publie un livre sur la persécution des homosexuels dans l'Angleterre victorienne. Un livre qui s'inscrit dans la lignée de son travail sur le genre et qui, par ailleurs, a des prétentions académiques puisqu'il est le fruit de sa thèse de doctorat, thèse qu'elle a soutenue à Oxford en Angleterre. Un jour, donc, elle est invitée à la BBC pour en parler, et là, catastrophe. L'animateur a repéré une mauvaise interprétation des sources qui fait s'écrouler sa thèse. Et les conséquences sont brutales. Elle est lâchée par son éditeur américain qui met le livre au pilon. Le Guardian qui lui faisait faire des chroniques cesse de la publier. Elle devient dans les facs l'exemple archétypal de la recherche bâclée. Et, pire que tout, elle est la risée du monde anglophone. J'ai même trouvé un extrait de la télévision australienne qui raconte cette histoire.
I want to share with you a stunning snippet of a progressive or leftist hero caught out live on air. Prominent feminist activist Naomi Wolf, she's got a new book out. It's called Outrages, Sex, Censorship and the Criminalization of Love. Have a listen.
I found like several dozen executions.
Dozen executions?
Correct.
I don't think you're right about this. One of the cases that you look at that's salient in your report is that of Thomas Silver. Thomas Silver wasn't executed. Death recorded. I was really surprised by this, and I looked it up. Death recorded is what's in, I think, most of these cases that you've identified as executions. It doesn't mean that he was executed.
Évidemment, les réseaux sociaux s'en emparent, ces réseaux où elle publie beaucoup, où elle a construit une grande partie de sa notoriété depuis longtemps déjà. Bref, elle vit un immense shitstorm. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a joué un rôle majeur dans le virage politique de Naomi Wolf? Est-ce qu'on peut dire que Internet, encore une fois, a eu sa part dans cette histoire?
People like that, they are always Internet addicts.
Les gens comme ça sont toujours des addicts d'Internet. Dans le livre, je parle d'une sorte d'équation mathématique pour les gens sujets à ce type de changement. Narcissisme et mégalomanie, plus addiction numérique, plus crise de la cinquantaine, la peur d'être hors du coup, divisé par humiliation publique. Vous faites une grosse erreur ou quelqu'un découvre que vous avez un passé douteux, que vous vous êtes mal comporté sexuellement, par exemple. Bref, quelque chose se passe et vous êtes cancelled, et on rit de vous. Tout l'Internet vous tombe dessus, et vous vous en apercevez parce que vous êtes très connecté. Si vous combinez tous ces facteurs, vous obtenez un virage à droite. C'est une équation assez opérante si vous y réfléchissez.
Bon, comme toute équation appliquée au comportement, celle-ci, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, c'est vrai qu'elle fonctionne pas mal. Et dans le cas de Naomi Wolf, c'est flagrant. Le virage est radical. Son shitstorm se produit juste avant la pandémie et le Covid l'a fait complètement vriller. Ridiculisée dans son camp, elle tombe dans le camp adverse, mais alors bien. Très vite, elle devient anti-vax, avec une grosse tendance complotiste, et là, tout y passe. Elle dit qu'à cause du masque, les enfants savent plus sourire, que le vaccin peut rendre les femmes stériles, et que donc il faudrait mettre en quarantaine les excréments des personnes vaccinées. Rien ne l'arrête dans le n'importe quoi. Un jour même, elle tweete la photo d'un médecin censé remettre en question la gravité du Covid, et en fait, il s'agit de la photo d'une star du porno qui, pour les besoins d'un film de cul, a mis une blouse et un stéthoscope. Mais alors, ça cartonne dans les réseaux. Surtout quand sa critique prend un tour technologique. Les QR codes scannés à l'entrée des lieux publics ne serviraient qu'à transmettre nos données de géolocalisation, les passeports vaccinaux et les apps vaccinales seraient une forme d'esclavage à vie, et elle passe sur Fox News et elle fait des vidéos pour l'expliquer.
Hi everyone, it's Naomi Wolf, CEO of Daily Clout, and as I promised, I'm here to talk about the vaccine passports. I appeared on Fox yesterday to share my warning about the vaccine passports, and I got hundreds and hundreds of emails from across the political spectrum saying, I'm scared too, what can I do to help? So I just wanted to take more time to explain what exactly the vaccine passports are, about what this platform really represents. So,
ailleurs, elle raconte même avoir entendu des employés d'Apple dans un restaurant expliquer que les vaccins contiennent des nanoparticules qui permettent de voyager dans le temps. Bon, tout ça, évidemment, d'un point de vue technique, ça ne tient pas la route. Mais ça prend terriblement. Alors évidemment, je demande à Naomi Klein de m'expliquer pourquoi la critique de la technologie occupe une part si importante dans le discours de son double, et par-delà d'ailleurs dans le discours du camp qu'elle a rejoint, Naomi Wolf, chez les antivax et les complotistes. Et là, eh ben, Naomi Klein, elle me prend un peu à contre-pied.
This is the thing, is that I think there's plenty of reasons to be worried about our cell phones tracking us without...
Le problème, c'est qu'il y a plein de raisons de s'inquiéter de la manière dont nos smartphones nous tracent sans avoir besoin d'y mêler les QR codes et le vaccin. Projeter toutes nos angoisses technologiques sur les passeports vaccinaux est juste l'exploitation d'un problème auquel nos dirigeants n'apportent pas de solution rigoureuse, alors qu'ils le devraient. On sait que nous n'avons plus de vie privée. On sait que nos données personnelles sont exploitées, que le capitalisme de surveillance repose sur un business model qui, je pense, devrait être illégal. Et le fait que nous ayons tous fait ces innombrables pactes avec le diable, parce que c'est comme ça que le monde d'aujourd'hui fonctionne, eh bien, c'est très, très déconcertant. Et c'est un vrai problème. C'est pourquoi je dis que les théories du complot se trompent sur les faits, mais ont raison sur les impressions. L'impression de vivre dans le capitalisme de surveillance est une impression profonde et légitime. C'est un débat sérieux qui obéit, semble-t-il, à un mouvement dialectique. Son abandon par la gauche et les libéraux a profité à la droite qui s'en est emparée. S'il y avait un agenda progressiste solide pour contrer le capitalisme de surveillance, il serait plus difficile pour ces esprits chagrins de récolter les fruits de cette peur et d'en faire usage pour leurs projets politiques.
Ça, c'est un argument très fort. Il y a des raisons d'angoisser de la technologie. Et quand on lit le livre auquel fait référence Naomi dans ce qu'elle vient de dire, hein, Le capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, eh ben, ce livre donne toutes les raisons d'être paranoïaque. Ce que font les antivax complotistes de la trempe de Naomi Wolf, donc, c'est d'exploiter cette angoisse légitime, de la monter en délire et d'élaborer à partir d'elle un récit à base de conspiration. Et ça, ça marche. Ça marche parce que la critique sérieuse a été abandonnée par la gauche politique, quand cette même gauche ne se montre carrément pas complaisante envers les acteurs de ce capitalisme de surveillance. Hein. Encore une fois, c'est un miroir tendu à la gauche où elle ne peut que constater ses faillites. Et donc, Naomi Wolf, comme d'autres, hein, elle exploite à merveille ses faillites. En l'espace de 2 ans, entre 2020 et 2021, en gros, elle se fabrique une nouvelle identité, une sorte de double de ce qu'elle était auparavant. Désormais, elle est la démocrate repentie qui comprend qu'elle s'est trompée et qui se prévaut de son passé pour taper sur une gauche dont elle maîtrise bien les contradictions.
Never, never in a million years would I recognize what I've believed 10 years ago. It's so quickly.
Par exemple, là, dans cette obscure vidéo titrée Tyranny and Misinformation in the COVID-19 Pandemic Crisis, vue 132 000 fois, où elle explique que c'est pas elle qui a changé, hein, mais ce sont les gens de gauche qui ont changé.
That reduces them to lockstep, cult-like, rigid policers of other people's choices, rigid supporters of what has become a two-tier society. I mean, I'm literally on the phone with my kids, you know, right before I got on this call, trying to find a restaurant in New York City where we can sit indoors because I'm not vaccinated.
Oh my goodness.
Yeah.
Évidemment, comme on l'entend à la réaction du type, hein, elle se fait adopter par un camp qui est trop content d'accueillir la transfuge repentie. Et cette nouvelle identité, eh ben, elle est très lucrative dans les réseaux. Naomi Wolf crée une sorte de blog amélioré qu'elle appelle une entreprise tech, hein, rien que ça, sur lequel elle poste des articles à puce qui marchent à mort parce qu'elle leur donne des titres du genre « L'Amérique fasciste en 10 petites étapes ». Elle tweet, elle poste, elle retweet, etc. Et elle devient l'invitée régulière des émissions et des podcasts de toute l'alt-right américaine.
So Naomi Wolf, welcome to Rick and Bubba University, the podcast. How are you today?
I'm good, and I'm so happy to be joining you. Thank you so much. What an honor.
Pray for our enemies, because we're going medieval on these people.
Et parmi les podcasteurs qui l'invitent, il y a aussi un des plus écoutés, Steve Bannon. Et ça, j'ai envie d'en parler avec ma Naomi, Naomi Klein. Parce que les podcasts d'extrême droite ont joué un rôle essentiel et inédit, je pense, dans la dernière campagne américaine. Bannon, hein, l'ancien conseiller de Trump, en sous-main. Et puis, de manière plus spectaculaire, Joe Rogan. Joe Rogan qui, en 15 jours avant l'élection, a reçu pendant 3 heures chacun et Donald Trump et son colistier J.D. Vance. Joe Rogan qui, d'ailleurs, hein, a été nommément remercié sur la tribune à Miami le soir de la victoire de Trump. Alors, j'aimerais que Naomi Klein m'aide à comprendre en quoi le podcast est un dispositif énonciatif particulier. Et quand je lui demande, ben pour commencer, ça la fait marrer.
J'écoute beaucoup de podcasts. Ils sont faits pour être une compagnie, pour vous tenir compagnie. Quand Rogan a commencé, il a trouvé son audience chez les routiers, au long cours, dont le travail est solitaire, qui sont isolés et ont besoin de compagnie. Et donc, la désinvolture de cette relation qu'on appelle parasociale fait qu'on y adhère. Il y a aussi que vous pouvez avoir une autre activité pendant que vous écoutez parce que ce n'est pas simplement de la radio. Le podcast est dans votre poche. Vous pouvez faire tellement de choses ensemble. La radio était fixe, elle était dans certaines pièces et pas dans d'autres. Elle ne vous accompagnait pas quand vous promeniez le chien, quand vous faisiez de l'escalade. Elle n'était pas dans vos oreilles au boulot. L'idée que vous pouvez avoir la même personne avec vous, dans des situations aussi différentes, c'est une affaire de technologie. Ce n'est pas pareil que la radio, même numérique, à cause de la nature particulière de cet objet qu'est le smartphone. Et je crois que la fusion des deux, son et smartphone, crée une intimité extrême. Je pense que ça solidifie le lien d'une manière très différente de ce qu'on avait expérimenté jusque-là, particulièrement les longs podcasts, qui occupent plus de temps que nous passons avec nos amis. Avec qui d'autre passez-vous 3 heures dans la journée ? Donc, il y a quelque chose qui relève de la forme. Et je ne pense pas que le terme parasocial en rende compte totalement. Ce serait du paracommunautaire, quelque chose de très profond.
Bon, là, il faut que j'avoue que je ne connaissais pas du tout ce terme de parasocial. Alors, j'apprends que la notion de relation parasociale, elle est apparue dans les années 50 pour désigner un type de relation à sens unique dont on peut faire l'expérience avec une personnalité publique ou un personnage de fiction. C'est-à-dire que, sans avoir eu d'interaction directe avec cette personne, eh ben, on développe une sorte d'intimité qui peut donner l'impression que c'est tissé un lien d'amitié. Bah ouais, on voit bien comment le podcast peut créer ça. Alors moi, je me l'étais formulé autrement en parlant de relations intersubjectives. C'est-à-dire qu'un animateur d'une matinale radio, par exemple, eh ben, il s'adresse à un public large en essayant d'ailleurs d'être le plus inclusif possible. Alors que quand on fait un podcast, quand on sait qu'on sera le plus souvent écouté au casque, seul à seul, eh ben, on crée une relation intersubjective, d'une subjectivité à une autre. Et c'est très différent, hein. Donc, ok, on peut dire que le podcast crée une relation parasociale plus forte peut-être que dans d'autres médias. Mais Naomi dit que ça va au-delà. Ça crée du paracommunautaire. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tout à coup, ça devient politique. Et donc, ça pose une question. Pourquoi, aux États-Unis, ce paracommunautaire a profité à l'extrême droite? Pourquoi ce sont les Joe Rogan et les Steve Bannon qui ont emporté la mise?
Joe Rogan Podcast, check it out!
The Joe Rogan Experience.
Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day!
A lot of people are trying to answer this question.
Beaucoup de gens essayent de répondre à cette question en ce moment.
One of the things I wanted to talk to you about. I wanted to play this.
L'attrait pour Rogan est très propre à lui. Rogan est curieux. Il endosse le rôle du type un peu débile, mais ouvert d'esprit, qui pose les questions bêtes que vous aimeriez poser. Il a une posture qui n'est pas surplombante. Il peut bouger politiquement.
He's not talking down to the audience, and he will cross a political divide. You know, he'll have.
Je me souviens d'une fois où il avait reçu Bernie Sanders pendant 3 heures et dit, c'est mon nouveau copain, comme s'il avait changé d'avis pendant le podcast.
So, I mean, I think he does lots of.
Il dit plein de trucs dégueulasses. Je ne suis évidemment pas fan. Mais cette manière d'être sincèrement ouvert d'esprit est, à mon avis, inaccessible à toute personne de gauche. Je n'en vois aucun dire « je viens de changer d'avis, je vais changer mon vote ». C'est impossible.
Et
cela explique plus largement l'attrait des gens pour cette droite. Les gens en ont marre d'être sur leur garde et prudents. Avoir un espace où ce n'est pas grave d'être débile nécessite une désinvolture qui est, d'après mon expérience, très difficile à dupliquer à gauche. Les gens de gauche ont toujours peur de se faire afficher par d'autres gens de gauche.
Well, probably would have been if the media didn't attack you the way they did, if they didn't conflate you with Hitler. I mean, even today, like.
Alors, pour avoir passé des heures à écouter Rogan interrogeant Elon Musk, Donald Trump ou Vance avant leur élection, je trouve l'analyse de Naomi hyper juste. Et Rogan, ce sont des écoutes qui se comptent par dizaines de millions. Des dizaines de millions de personnes qui écoutent Rogan et Trump bavasser comme des copains au sujet, bah, par exemple, de tous ces animateurs de télé-démocrates hypocrites comme Oprah Winfrey qui l'adoraient avant de le vouer aux gémonies.
Some of these women, they're so stupid. Every time she'd see me, I'd be in the theater or something, and she says, "You have to be on the show again. Come on, let's go. We have."
She loved you.
To love me.
That episode where.
By the way,
people should watch that.
Donc, ok, je comprends mieux la fonction de Joe Rogan dans le dispositif néoconservateur, mais Bannon. Alors, je sais que Naomi Klein a énormément écouté Bannon, précisément parce que c'était le lieu d'expression favori de son double maléfique, la Naomi Wolf. Mais aussi parce que, même si les relations de Bannon avec Trump sont compliquées, hein, Bannon est un immense promoteur des idées de l'alt-right et au-delà même des frontières états-uniennes. Donc, pour profiter encore de la finesse sémiologique de Naomi, je lui demande si Bannon, c'est du même acabit que Rogan, ou si c'est tout autre chose comme type de dispositif.
Well, we are lucky to have you. You're a real journalist.
Bannon, it's something very different. It's called the War Room, and
Bannon, c'est différent. Son podcast s'appelle War Room. Et si vous l'écoutez, ce que vous ressentez tout de suite, c'est d'arriver en plein milieu d'une réunion d'état-major où des officiers font leur rapport du front. Bannon est un ancien soldat. Il utilise souvent des métaphores militaires. Les auditeurs ont l'impression d'écouter quelque chose de l'intérieur. Donc ça n'a rien à voir avec regarder la télévision. Les invités sont grossiers. Bannon met un point d'honneur à être horrible. Il n'y a aucune finesse. C'est fait pour être rude. Et ça vous donne l'impression d'être important parce que vous assistez à une réunion de préparation à un mouvement. C'est le lieu d'un mouvement qui compte des millions d'auditeurs. Ça ne fait pas semblant d'être un lieu d'action, c'en est vraiment un. Bannon donne aux gens des ordres. Prenez le contrôle de votre antenne locale du Parti républicain. Assurez-vous de dépouiller les bulletins. Devenez représentant des parents d'élèves. Allez aux réunions d'école, dites ça. Soyez prêts parce que c'est comme ça qu'ils vont essayer de nous avoir. Ok, on a gagné les élections, mais c'est comme ça qu'ils vont essayer de les voler. C'est ça le message qu'il faut porter. Sortez dans la rue, diffusez-le. C'est l'agitprop, un média militant à un point que je n'ai jamais vu atteint par la gauche.
Je trouve ça passionnant, cette catégorisation. Alors, j'aurais envie de la poursuivre avec d'autres podcasteurs et podcasteuses, influenceurs et influenceuses de l'extrême droite américaine. Et puis, j'aimerais savoir aussi pourquoi la gauche n'a jamais eu, au dire de Naomi, un média aussi militant que celui de Bannon. Pourquoi la gauche n'est pas capable de cette espèce de désinvolture de Rogan. Pourquoi la gauche est hautaine. Enfin bon, j'aimerais approfondir parce que ce sont des critiques sévères, hein, qui viennent d'une personne fondamentalement de gauche. Mais à ce moment-là, Naomi reprend la parole d'elle-même pour dire au sujet de Bannon quelque chose auquel je n'avais jamais pensé.
Il voit le podcast comme une forme de post-print. L'imprimé ne l'intéresse pas car Bannon passe son temps à se libérer des cadres. Il ne cesse de transformer l'histoire, de lui donner une autre forme. L'imprimé est fixe. Lui s'intéresse aux sentiments. Les faits sont un frein.
Alors ça, je trouve ça génial. Et assez évident hein, quand on y pense. Si Bannon ne s'intéresse pas à l'écrit, c'est parce que l'écrit fixe les choses. Il fixe les faits, ça fixe les mots. Alors que le podcast, c'est de l'oral. Et comme le dit la vieille formule latine « verba volant scripta manent », les mots volent, les écrits restent. Alors, on peut évidemment réécouter un podcast, on peut le retranscrire même, mais c'est vrai que parce que c'est de la parole, il y a quelque chose en lui de plastique, enfin, d'évolutif. Or ça, hein, comme la radio d'ailleurs a profité plus que l'écrit au fascisme des années 1930, hein, eh ben, ça convient très bien au discours de l'extrême droite américaine, qui en effet ne cesse de changer d'objet et de muter exactement comme un virus. Et ça, on l'a bien vu au moment du Covid, d'ailleurs dans une sorte de mise en abîme hallucinante. C'est-à-dire que les théories du complot mutaient selon l'avancée de la pandémie, entrant parfois en contradiction les unes avec les autres, mais peu importe, car cette aptitude à la mutation permettait une meilleure propagation. Et ça, c'est ce que m'avait expliqué Dominique Boulier dans l'épisode sur les propagations. Et donc, voilà une autre raison pour laquelle le podcast joue peut-être un rôle si important dans la diffusion du message d'extrême droite, c'est qu'il offre un milieu favorable à sa mutation. Mais là, j'ai un sursaut corporatiste. Bon, ok, le podcast est important dans cette poussée hégémonique de la droite populiste aux États-Unis. Ok, bon, le numérique, c'est important. Mais rassure-moi, Naomi, il n'y a pas que ça. Tout n'est pas affaire que de numérique dans cette histoire.
Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes culturels qui alimentent cela. Il y a Internet, il y a le numérique, mais il y a aussi le catch, il y a aussi la télé-réalité. Ce n'est pas seulement le monde numérique qui prend vie quand vous regardez quelqu'un comme Trump. Je pense que cela a à voir avec une confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et aussi avec le fait de n'avoir rien à faire, voire carrément d'adorer la fausseté. Ce qui la fait devenir de plus en plus réelle. Plus besoin de la mettre en relation avec la réalité, puisque le point de départ, c'est le faux. Un peu comme dans Hunger Games, le film. Les artifices d'Hunger Games font partie du jeu, mais ils tuent vraiment des gens. C'est donc réel, puisque les gens meurent. Mais cela prend la forme d'un jeu. Donc ce n'est pas clair à quel point c'est sérieux. Sauf pour les gens qui meurent, évidemment. Mais ceux qui regardent ne sont pas sûrs que ce soit vraiment sérieux.
J'avoue que j'ai pas trop compris la référence à Hunger Games, et de toute façon, j'ai rien compris à Hunger Games. Mais bon, cette boucle rétroactive là, où l'artifice produit un effet dans le réel, c'est intéressant. Et puis le fait que l'artifice finisse par devenir réel, ça c'est passionnant. Mais bon, on n'est pas dans Hunger Games quand même. Hein. Et d'ailleurs, je fais la remarque à Naomi, alors elle revient dans le vrai monde.
On est tous très confus sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les soldats de l'armée israélienne à Gaza font des vidéos TikTok pour leurs amis ou leurs proches. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas qu'ils s'incriminent eux-mêmes aux yeux du monde. Ils pensent juste faire un truc marrant pour leurs copains. Les gens ont une relation extrêmement étrange avec la réalité.
Au crédit de Naomi Klein, je me souviens récemment avoir vu une série de vidéos postées dans les réseaux par les soldats de l'armée israélienne et j'avais halluciné. Les blagues des artificiers qui font sauter un immeuble, le type qui frappe à une porte en gros plan et puis quand ça dézoome, on s'aperçoit que tout est détruit derrière la porte. Bon, tout ça, ça mériterait une interprétation morale et politique, hein. Néanmoins, je trouve intéressante celle de Naomi, qui est d'ordre plus anthropologique. Cette démarche manifeste une relation étrange avec la réalité. Mais on va pas revenir aux raisons de cette confusion, on en a déjà parlé tout à l'heure. En revanche, ce que je me demande, c'est comment on fait de la politique dans un monde où règne cette confusion. Parce que la politique, enfin du moins en démocratie, c'est de ne pas être d'accord sur l'interprétation des faits. Or, ça sert à quoi discuter de l'interprétation des faits si on n'est pas d'accord sur les faits? Et quand je lui pose la question, eh ben, Naomi, elle répond par une autre question.
Que se serait-il passé en 2016 si c'est Bernie Sanders qui avait affronté Trump? Parce que Bernie est le mec le plus réel du monde. Il est comme ça, il ne sait pas faire semblant. Bernie est tout le temps le même. C'est pourquoi il est si convaincant et si étrange. Bernie n'est pas de ce monde. C'est pour ça que le mème où il porte ses moufles pendant la cérémonie d'investiture, il ne le comprend pas. Pour lui, ce sont juste de bonnes moufles. Il fait froid et c'est comme ça qu'il s'habille, point. Bernie est une personne réelle qui n'appartient pas à notre espace-temps. Il est toujours là à dire... Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, parler de la réalité? Les gens ont besoin d'une sécurité sociale, d'augmentation. Pourquoi tout le monde parle de toutes ces absurdités? Bannon était terrifié à l'idée que Trump doive affronter Bernie. Ça l'inquiétait beaucoup. Beaucoup plus que s'il devait affronter un autre fake. C'est mon interprétation de la dernière élection, d'ailleurs.
Trump stands for this kind of like
D'un côté, vous avez Trump qui joue tout à fait consciemment le rôle du grossier personnage et s'ébat au milieu d'un monde de mèmes, de catch, de télé-réalité, de concours de beauté. Un monde parfaitement conscient d'être faux, dont tout le monde sait qu'il est fake. Tout le monde sait très bien que la télé-réalité, ce sont des gens qui se disputent parce que les producteurs leur demandent, que tout est scénarisé. Tout le monde sait que le catch est joué, mais les gens aiment ça quand même. Ça, c'est le monde de Trump. Il est le roi de ce monde. La campagne de Kamala Harris, c'était la télévision de qualité. Elle a joué le rôle du chef de la police qu'on trouve dans les séries. L'officier sévère. Mais bon, ça, c'était Kamala Harris et son colistier, Tim Walz. C'était comme dans la série Ted Lasso. Tout le monde l'appelait Coach Walz. Mais tout ça, c'était fake. C'était un divertissement contre un autre. Alors que Bernie est vraiment réel, du genre, les pauvres ont besoin de choses, est-ce qu'on peut leur donner s'il vous plaît?
C'est très marrant ce que raconte Naomi Klein sur Bernie Sanders, le type le plus réel du monde. Et j'avoue que son interprétation de la scène des moufles, elle est pas mal. J'ai encore en tête cette image, elle avait fait le tour du monde, c'était en janvier 2020, pendant l'investiture de Joe Biden à Washington. Bernie Sanders était à la tribune, assis sur une chaise en plastique, masqué, on était en pleine pandémie, un peu avachi, et les deux mains croisées sur son ventre. Sauf que Il portait des grosses moufles avec des motifs. Alors, ça tranchait tellement avec les tenues compassées ou hyper chic du reste des démocrates, Bernie Sanders, il avait l'air là d'un pépé qui en a rien à foutre. Et c'est drôle que Naomi interprète ça comme le fait de coller au réel, d'être réel. Tout comme est passionnante l'interprétation que donne Naomi de la campagne de Kamala Harris. Comme une tentative de produire un autre divertissement que celui de Trump, mais un divertissement quand même. Le souci de la candidate démocrate d'incarner un personnage, au point de produire une fiction qui, au final, n'est pas plus réelle que celle de Trump.
In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different.
C'est intéressant ce que dit Naomi. Mais ça pose une question stratégique pour la gauche. Est-ce qu'elle doit aller du côté de Bernie Sanders et coller au réel, ou au contraire, est-ce qu'elle doit produire une sorte de fiction, mais bon, juste meilleure que celle de Kamala Harris? Enfin, pour le dire autrement, de quel côté du miroir faut-il se battre?
Je suis absolument certaine qu'on ne bat pas l'artifice à son propre jeu. À ces questions du genre « est-ce qu'il nous faut un war room de gauche ?», je réponds qu'on ne peut que créer un miroir de gauche de ces programmes. Quelque chose qui mette au jour l'artificialité du camp d'en face. C'est tout à fait faisable, parce qu'il y a beaucoup d'artifices chez les gens d'extrême droite. Ils font comme s'ils se battaient pour les classes populaires alors que c'est une bande de millionnaires. Ils disent qu'il y a un complot, qu'ils vont le mettre au jour, alors que Elon Musk est un complot à lui seul. Alors bien sûr, il préfère que les gens parlent de QAnon ou de trucs comme ça. Donc je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça qu'il faille faire, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille jouer à ce jeu. Cela dit, ça doit être faisable. Parfois, je me dis que quelqu'un comme Alexandria Ocasio-Cortez est peut-être l'avenir, alors. Elle est très forte dans les réseaux. Mais je n'en suis pas sûre. Il est possible qu'elle aussi soit réelle. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre que quelqu'un de réel puisse survivre.
Hello, this is Alexandria Ocasio-Cortez for Brute.
Je trouve assez beau qu'on termine là, sur les doutes stratégiques de Naomi Klein. Sur ses doutes aussi, à propos de quelqu'un comme la jeune élue démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'elle connaît bien. C'est intéressant que Naomi se questionne. Alexandria Ocasio-Cortez serait-elle un bon personnage numérique? Ou alors est-elle trop réelle? Faut-il qu'elle colle au réel? Tout ça, ça reste en suspens. Bon, ça nous a un peu éloigné de Naomi Wolf, hein, cette discussion. Mais pas tant que ça, parce que si Naomi Klein est aussi intéressée par son double, c'est parce qu'elle lui tend un miroir à elle. Et d'ailleurs, son livre, là, Le Double, c'est un livre étonnamment introspectif. Qu'on puisse la confondre, elle, la gauchiste invétérée, avec une trumpiste complotiste, et bien forcément, ça la questionne aussi sur elle-même. Naomi Wolf tend un miroir à Naomi Klein, donc. Mais c'est toute la droite américaine qui tend un miroir à la gauche américaine. Et au-delà, à la gauche mondiale. Qu'est-ce qu'on a raté? Pourquoi ce sont eux qui capitalisent sur les angoisses technologiques, alors même qu'ils racontent n'importe quoi et qu'ils ont fait entrer Elon Musk au gouvernement? Pourquoi ce sont eux qui gagnent sur Internet?
Xavier Delaporte.
Un grand merci à Naomi Klein qui s'est prêtée au jeu. Je recommande la lecture de son livre Le Double, qui est un régal sur plein d'autres questions encore qu'on n'a pas évoquées ici. Il est publié aux éditions Actes Sud. À la prise de son, c'était Guillaume Roux, au mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion. Naomi Klein était interprétée par Fanny Beauhulon. Réalisation, Séverine Cassard. C'était Le Code a changé, un podcast natif de France Inter.